Alors ça, c'est une question qui revient quand même fréquemment.
J'ai un avis extrêmement subjectif.
On va partir aussi de la forêt pour aller à l'écureuil.
Moi, je préfère partir d'une question.
Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Signal sur bruit. Après une pause et quelques évolutions, voici la saison 3 de notre podcast, dédiée à un sujet d'actualité, les manipulations de l'information. Pour lancer cette saison, nous vous proposons une série spéciale de 5 épisodes réalisés en collaboration avec le Cercle Pégase de Soprasteria. Ce think tank réunit des experts et des chercheurs engagés contre la lutte contre les ingérences numériques étrangères. Leur objectif, défendre la souveraineté des États face aux menaces informationnelles et promouvoir un dialogue interdisciplinaire sur ces enjeux. Dans cette série, nous explorerons les travaux et les idées des chercheurs associés au Cercle Pégase, chacun apportant une expertise spécifique. Et pour ouvrir cette nouvelle saison, je suis ravie d'accueillir Victor Chomel. Nous allons explorer ensemble la notion de capitalisme de la confiance et de ce qu'elle implique. Victor est chercheur à l'Institut des systèmes complexes et a réalisé sa thèse sous la direction de David Chavalarias, mathématicien, chercheur et auteur de l'excellent ouvrage « Toxic Data » que je vous recommande chaudement. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter également l'épisode 6 de la saison 2 de Signal sur bruit. La thèse de Victor Chomel portait sur une approche structurelle et dynamique de la désinformation et des manipulations d'opinion en ligne. Mais il en parle mieux que moi.
Dynamique, c'est qu'en fait on va regarder dans le temps comment est-ce que ça va évoluer. Et structurel, c'est qu'on va s'intéresser principalement aux dynamiques des structures sociales. Donc par exemple, comment est-ce que les communautés vont évoluer dans le temps? Est-ce qu'on va voir l'apparition, la disparition de communautés dans le cadre, par exemple, de campagnes présidentielles, pendant le Covid ou pendant tout un tas d'événements extérieurs? Aujourd'hui, justement, on a vu qu'il y avait une restriction quand même de l'accès aux données. Ce sera peut-être en train de changer. En ce moment, on a l'article 40 du DSA qui permet justement d'encadrer l'accès aux données pour les chercheurs. On a rassemblé au niveau de l'Union européenne tout un tas de demandes pour essayer de mettre ça en commun et de forcer les plateformes à nous donner accès aux bonnes données. Quand je parle des bonnes données, c'est quoi? C'est à la fois les contenus, mais aussi tout ce qui va autour. Si on était capable d'avoir accès, par exemple, aux sorties des algorithmes de recommandation, à l'ordre dans lequel la plateforme choisit de nous montrer ses contenus, et bien ça nous permettrait quand même principalement d'être capable de pointer une responsabilité, de dire c'est parce que vous poussez ce type de contenu qu'il est mis en avant logiquement, mais surtout qu'il est regardé par plein de personnes. L'idée, c'est globalement d'essayer de développer des solutions techniques et donc des modèles qui sont capables de comprendre l'évolution d'une plateforme dans le temps et donc de proposer des modèles aux évolutions de ces structures sociales dont je parlais juste avant. Lorsqu'on a, dans un moment, un événement qui se passe, comme par exemple un coup d'État, comme on a pu le voir dans pas mal de pays ces derniers temps, et bien à ce moment-là, les structures sociales vont se reconfigurer, des communautés vont se rassembler ou se séparer, et c'est exactement ça qu'on va essayer de regarder. Pour faire le lien entre désinformation et toxicité, ce qu'il a été montré quand on fait de l'audit algorithmique, donc c'est vraiment, on va essayer de décortiquer comment est-ce que la plateforme va choisir de recommander ses contenus. Quand on fait l'audit algorithmique, on a pu montrer, par exemple, c'est les travaux de Paul Bouchot, qui est aussi sous la direction de David Chavarias, on a un delta de 50% entre les contenus toxiques et les autres. Donc en fait, on va toujours avoir tendance à regarder des contenus toxiques, à la fois parce que ça joue sur des mécanismes psychologiques humains. On a envie de regarder des contenus toxiques. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous met en garde contre tout un tas de choses qui pourraient être dangereuses pour nous. Mais tous ces contenus-là, en fait, ils sont utilisés par les plateformes contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser tous ces biais cognitifs humains pour créer de plus en plus d'addictions sur les plateformes. Typiquement, à Stanford, on a un laboratoire de captologie. La captologie, c'est quoi? C'est la science de capter l'attention. Et aujourd'hui, quand vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, en fait, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul face à votre téléphone ou face à votre force de conviction, en essayant, il faudrait que j'arrête de regarder mon téléphone. Vous êtes tout seul face à 50 personnes avec des thèses à Stanford qui sont en train de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour essayer de vous maintenir addict.
Donc, ce que Victor nous dit, c'est que tout d'abord, les chercheurs se battent pour avoir accès à des données, notamment les données liées aux algorithmes utilisés par les plateformes pour capter l'attention ou pour recommander des contenus. Et ces accès sont difficiles. Mais heureusement, en Union européenne, Une législation s'est mise en place, notamment grâce au Digital Service Act, le DSA, et à son article 40 qui encadre cet accès aux données pour les chercheurs. Ces données nous donnent des informations sur la manière dont les algorithmes captent notre attention et nous donnent aussi un aperçu de la manière dont nous sommes confrontés à des contenus toxiques.
Aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment un peu charnière. Alors, on est tous d'accord là-dessus avec l'arrivée des modèles génératifs et des LLM, donc des Large Language Models, donc des grands modèles de langue. On a beaucoup d'usages qui commencent à apparaître. Et parmi ces évolutions d'usage, on a notamment la révolution de l'accès à l'information. On a eu plusieurs évolutions de l'accès à l'information. Dès qu'on a un nouveau média qui apparaît, eh ben, évidemment, on va lui mettre tous les mots sur le dos. On a eu ça avec la radio, avec la télévision. Avec les réseaux sociaux qui seraient responsables de tout un tas de mots. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on accède de plus en plus à l'information par le biais des réseaux sociaux. Potentiellement, cet état de fait, demain, il peut évoluer. Probablement, on est appelé à avoir de plus en plus, alors ça peut être des assistants virtuels, ça peut être tout simplement le réflexe d'aller sur ChatGPT pour répondre à peu près à n'importe quel type de question qu'on posait avant sur Google. Et en fait, c'est ça ce qui change notamment notre accès à l'information, c'est que ChatGPT peut jouer un rôle qui est assez similaire à celui d'un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il a accès, ou en tout cas il a eu accès à tout un tas de connaissances, à énormément d'informations à un moment donné, qu'il va vous rassembler et retranscrire à sa façon. La manière de Google ou d'un autre moteur de recherche de retranscrire l'information, c'est de la hiérarchiser et de vous mettre en avant le contenu qu'il pense être le plus pertinent pour votre requête.
Je fais une petite incise ici, car les propos de Victor sur les Large Language Models, les grands modèles de langue, me font penser à un court poème de T.S. Eliot qui avait été mis en exergue du blog Affortance, tenu par le chercheur en sciences de l'information et de la communication, Olivier Chade. Et ce poème disait ceci. « Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? » Où est la vie que nous avons perdue en vivant? Où est la sagesse que nous avons perdue dans le savoir? Où est le savoir que nous avons perdu dans l'information? Et Olivier Hirtshed avait ajouté « Where is the information we have lost in Google ?» On pourrait aujourd'hui ajouter « Où est l'information que nous avons perdue dans l'intelligence artificielle ?»
Pour un modèle de langue, c'est un peu différent. Il va synthétiser ces informations et vous les recracher. Mais pour autant, ça reste une manière de hiérarchiser de l'information. Et ça, pour le coup, ça peut avoir des conséquences qui sont assez importantes. Un des exemples, alors en travaillant sur les questions de désinformation, c'est l'impact des campagnes de désinformation à travers les modèles de langue. Ça, on a pu le voir avec, par exemple, des premières analyses de NewsGuard, de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas polluer ces modèles de langue avec des campagnes de désinformation? On l'a vu sur des sujets qui étaient un peu niches, notamment des sujets pro-russes, dans lesquels on a eu une inondation du web de contenus en l'occurrence faux, sur un sujet très précis, ce qui fait que la génération d'après de modèles de langue a vu ces contenus-là de nombreuses fois, et donc les a intégrés comme n'importe quelle autre source d'information, et donc va vous les recracher. Et là, ce qui est très dangereux, c'est qu'en fait, vous n'avez plus accès à la source initiale qui était de toute évidence de mauvaise qualité, où là, vous auriez pu avoir un certain esprit critique, mais vous allez le voir comme sortant d'un modèle de langue, alors on sait qu'ils ne sont pas parfaits, mais globalement, vous pouvez le prendre comme une source d'information a priori peut-être fiable. Et ça, ça a des conséquences qui sont en fait à tous les niveaux, parce que si vous, par exemple, demain, vous faites de la pub, et bien très probablement, vous allez avoir aussi envie de polluer les modèles de langue. Une des manières de le faire, en fait, c'est un peu comme vous le feriez avec du SEO. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization. C'est l'idée de dire comment est-ce que je fais pour que moi, mon site, moi, mon produit ou ce que je veux vendre arrive tout en haut des recherches Google. Et bien en fait, on a la même chose, on aimerait bien que ce qu'on vende ou ce qu'on essaie de produire arrive tout en haut, en tout cas dans le premier résultat d'un prompt sur ChatGPT. Et ben, en fait, ça, moi si demain je suis PDG de Coca-Cola ou n'importe quoi, et ben en fait j'ai vraiment envie d'être capable de twister légèrement la sortie d'un modèle de langue pour arriver à vendre mon produit, pour en tout cas qu'on en dise du bien. Si demain je suis, développeur et que je génère du code comme font beaucoup de développeurs aujourd'hui, et ben potentiellement on va me proposer des librairies qui sont propriétaires ou qui en tout cas ont été développées par les entreprises. Et ben cette idée-là, qui est très simple, me fait dire que on est capable d'avoir un placement de produit qui est déguisé. Est-ce que à terme ça se transformera en modèle économique comme on l'a vu pour Google ou pour tout un tas d'autres solutions, je ne sais pas, mais en tout cas ça risque de révolutionner ou de changer la manière dont on accède à l'information et la manière dont on fausse l'information dans un second temps. Certaines questions sont compliquées à répondre pour un modèle de langue. Par exemple, si je prends un livre avec, pour lequel on peut prendre le livre de la jungle ou ce qu'on veut, et je lui demande quel personnage n'apparaît pas dans le livre, et bien en fait c'est quelque chose qui est assez compliqué à répondre pour un modèle de langue, parce qu'il est capable d'extraire de l'information, mais il n'est pas forcément, en tout cas la manière dont il est fait actuellement, capable d'extraire de la non-information. Être capable de voir ses vides, être capable de voir les silences, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il est assez mal calibré, même si je ne doute pas que dans les années à venir ça risque d'évoluer fortement.
À ce moment-là de l'entretien, Victor revient sur un élément qui a déjà fait l'objet de différentes conversations, à savoir le bizarre, le phénomène qui interpelle, l'élément qui aurait tendance à nous faire dire qu'il y a un problème, voire une manipulation. Et cet élément, c'est souvent le vide, le manque, l'absence de quelque chose.
C'est quelque chose qu'on observe beaucoup dans la partie informationnelle, c'est les moments où il y a un silence. On l'a vu par exemple le moment où il y a eu la fin de Prigogine. On a vu que tout un tas de comptes, par exemple sur les réseaux sociaux, se sont arrêtés du jour au lendemain ou ont arrêté de publier. Parce que bah, ils n'avaient pas forcément de direction dans laquelle aller, ils ne savaient pas si le programme tout simplement continuait. D'un point de vue plutôt obsèque, là cette fois-ci, on a vu ça notamment avec les SNLE.
SNLE, c'est sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et c'est une composante océanique de la dissuasion française.
On s'est rendu compte que pendant qu'il y a un départ de SNLE, les personnes ne peuvent pas poster, ne peuvent pas être présents, et du coup sur la base de ce point-là, il y avait des personnes qui avaient été capables de retrouver une partie des équipages, notamment avec les départs en mer. Donc très souvent, le manque de données est une information en soi, et c'est quelque chose sur laquelle les modèles de langue aujourd'hui ont encore du mal à travailler.
Depuis que j'ai eu le plaisir de rencontrer Victor Chomel lors de la présentation de son travail de recherche pendant un jeudi de la grenouille, les rencontres cyber de l'association M82, nous avons entamé une discussion et des réflexions liées à nos différentes expertises. Le problème, c'est que ces discussions partent irrémédiablement dans tous les sens, ce qui n'a pas manqué d'arriver dans cet entretien. J'essaye donc de recentrer les propos sur la question de la vulnérabilité des algorithmes.
Il y a des vulnérabilités sur les usages, les biais d'usage, et il y a des vulnérabilités sur l'algorithme lui-même. Un des exemples de vulnérabilité sur les usages, c'est le fait qu'on est capable aujourd'hui de modifier les contenus qui sont recommandés sur la base de notre utilisation. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident, mais qui peut prendre qui peut arriver à des points assez extrêmes. Aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que TikTok va montrer des commentaires différents selon les personnes. Mais en extrapolant ce point-là, on a eu le cas sur Netflix il y a quelques années, avec la question des biais dans les algorithmes de recommandation, sur le lien entre la couleur de peau de la personne, de l'utilisateur, et la couleur de peau des acteurs dans les vignettes. Il faut savoir qu'en fait, Netflix optimise notamment le choix des petites vignettes qui montrent, les thumbnails, et il ne va pas montrer la même vignette à deux utilisateurs différents. Et pour ça, il va montrer la vignette en se basant sur ce qu'il connaît de vous et sur ce qui pourrait vous faire cliquer sur le contenu. Et en fait, il a inféré le fait qu'en montrant des personnes de couleur noire à des utilisateurs de couleur noire et des personnes blanches à des utilisateurs de couleur blanche, et bien en fait, les gens cliquaient plus dessus. Même si, dans le film, en fait, il y avait peut-être 2 minutes avec l'acteur noir et 98% du temps avec des acteurs blancs. Et en fait, ça pose un problème parce qu'on se retrouve avec un algorithme qui se base uniquement sur ce que font les personnes, mais qui a appris à choisir de recommander en fonction de la couleur de peau inférée de l'utilisateur. Et ça, c'est la définition d'un algorithme raciste. Et donc ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour corriger ça? Et est-ce qu'on doit corriger ça? Alors, est-ce qu'on doit corriger ça? A priori, plutôt oui, notamment pour faire société. Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on corrige ça? Et si on pousse à l'extrême, on a bientôt la présidentielle américaine, On a d'un côté les républicains, on a de l'autre côté les démocrates. On sait que chacun va préférentiellement voir des informations de son bord politique. Est-ce que c'est le rôle d'une plateforme, d'un algorithme, de pousser des contenus opposés au nom, par exemple, d'une certaine équité ? Et si on revient en France, est-ce qu'on est censé avoir accès à toutes les opinions qui soient poussées de la même manière ? Et sinon, bah, sur la base de quoi ? Et ça, pour le coup, c'est une problématique qui est super compliquée à résoudre et sur laquelle j'ai pas de réponse. Ce qui serait peut-être plus logique, c'est de laisser la main à l'utilisateur, de choisir les paramètres de son algorithme de recommandation. Est-ce qu'il veut voir plus de contenu de personnes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il veut voir plus d'images ? Bref, en fait, d'avoir des métriques pour auditer ça. Après, il y a tout un tas de manières de l'auditer de manière assez simple. Si tout simplement, par exemple, on forçait les plateformes à nous dire quand on voit un contenu, est-ce qu'on le voit parce qu'il a été recommandé ou est-ce qu'on le voit parce qu'on suit une personne ou parce qu'on suit une personne qui suit une personne ? Eh bien, en fait, juste ça, ça nous permettrait de dire attendez, ce contenu-là, il a été vu 10 millions de fois, non pas parce que les gens suivent la personne, mais parce qu'il a été recommandé 98% des 10 millions de fois. Et en fait, ça, ce serait une métrique qui pourrait être publique, notamment une fois qu'elle est agrégée, qui est assez peu risqué et qui nous permettrait, côté chercheur, en fait, d'auditer tout ce qui se fait sur les plateformes.
C'est Florent Lefebvre qui, à ce propos, a publié un post intéressant sur LinkedIn. Florent Lefebvre est spécialisé dans l'analyse des données des réseaux sociaux. Il disait ceci. Threads, le nouveau réseau social de Meta, censé concurrencer X, n'allait pas le remplacer, car il utilise le même type d'algorithme qu'Instagram. Or, sur Insta ou sur Threads, on voit d'abord et surtout les contenus auxquels on est abonné. La grande différence entre Insta, Threads et X, par exemple, c'est que sur X, si le contenu est pertinent, entre guillemets, il va percer, même si le compte qui publie est un compte peu connu qui a peu de visibilité. Ça arrivera relativement peu sur Instagram. Et c'est ce que Florent Lefebvre explique en disant que, sur Threads, la courbe de performance est plate. A l'inverse, sur un réseau social comme TikTok, ce qui compte, ce n'est pas qui tu es, mais ce que tu produis. On a sur TikTok une courbe de performance hyper accentuée. Florent Lefebvre parle alors de poids social. Le poids social d'un compte n'a pas la même importance. Ce qui compte sur TikTok ou sur X, c'est la valeur ajoutée du post. La valeur sociale sur TikTok, elle va être calculée message par message, post par post, et pas sur l'ensemble d'un compte ou sur la qualité d'un profil. C'est ce qui va expliquer la viralité, par exemple, des contenus sur X et TikTok, et à l'opposé, ce qui explique la moindre viralité des contenus sur Threads ou Instagram. Pour poursuivre cet entretien, je demande à Victor ce qu'il a pu observer dans le cadre de ses travaux de recherche sur le rôle des influenceurs dans la diffusion de la désinformation ou des campagnes de manipulation de l'information.
La différence entre création et diffusion, notamment sur les fausses infos, on a vu que petit à petit, notamment avec l'arrivée des modèles de langue, mais pas que, avec notamment l'industrialisation et la sous-traitance qu'on voit arriver dans la désinformation, on a de plus en plus cette division. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, toute la partie modèle de langue a révolutionné la création, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux de créer des faux contenus réalistes et hyper personnalisés. On a toujours pu créer des faux contenus, on a toujours pu faire des contenus réalistes, mais avant ça coûtait souvent plus cher parce qu'il fallait avoir le cadre culturel, il fallait avoir la maîtrise de la langue, la maîtrise des codes sociaux, etc., qui aujourd'hui est totalement intégré dans les modèles de langue. Donc la création, en fait, coûte et de bien meilleure qualité et coûte beaucoup moins cher. Et en fait, les deux combinés, ça fait qu'on a énormément d'acteurs privés qui peuvent se lancer sur le marché, notamment pour le compte d'acteurs pas forcément très bienveillants. Mais ça résout pas la question en fait de la diffusion. Et pour le coup, pour la diffusion, pour avoir vraiment la partie influence de l'information, il faut soit arriver à vraiment personnaliser le contenu pour la cible, et ça c'est pas forcément évident quand on connaît pas la cible, des fois même on la loupe tout simplement. Et la meilleure solution, ça reste encore de passer par des influenceurs qui, eux, ont une vraie audience. Et je trouve ça assez vrai quand David Chavalarias parle de capitalisme d'influence. En fait, aujourd'hui, ce qui est vendu sur les plateformes, c'est pas forcément du temps de cerveau disponible ou de l'information. En fait, tout ça, c'est important, mais ce qu'on vous vend, c'est de l'influence. Si vous êtes prêt à acheter de la pub, si vous êtes prêt à essayer de vous constituer un capital social sur n'importe quelle plateforme, c'est que vous pensez être capable d'influencer les gens pour ensuite être capable de le monétiser. Et ce capitalisme d'influence, il vient du fait que les plateformes ont mis en place un modèle économique qui valorise ça. C'est le fameux capital social. Et juste, alors je vais peut-être une petite aparté, mais pourquoi est-ce que c'est un peu important que les plateformes soient capables de monétiser ce capitalisme d'influence? Et bien ça, c'est ce que David a appelé, on va dire, ou revenait sur la conjecture de Von Förster. C'est quoi la conjecture de Von Förster? C'est, accrochez-vous bien, c'est l'idée de dire des personnes qui sont en interaction vont avoir un certain degré de liberté. Et si vous connaissez le comportement d'une personne, ben, vous allez avoir potentiellement un peu d'informations sur le comportement des autres. Et dans la situation où des personnes ont des relations qui sont très fortes et très rigides, et ben, en connaissant l'information d'une personne, vous connaîtrez l'information de toutes les personnes autour. Un exemple, c'est si vous pensez par exemple à une troupe qui marche au pas. Vous avez une troupe qui marche au pas dans une direction, bah, si vous savez dans quelle direction marche une des personnes, tout le monde est aligné, tout le monde marche dans la même direction. Ce qui fait qu'au niveau des utilisateurs, vous avez presque pas de degré de liberté. Les personnes dans la troupe qui marche pas, en fait, vont juste s'aligner sur les personnes à gauche et devant elles. Par contre, d'un point de vue extérieur, vous pouvez tout à fait comprendre dans quelle direction marche la troupe. Et en fait, ça, c'est l'idée de dire, on a un trade-off aujourd'hui sur les plateformes, l'idée de dire que si tu perds quelque chose, tu gagnes autre chose.
Ok.
Il y a un trade-off de degré de liberté entre le degré de liberté des individus et le degré de liberté de la communauté. Et en fait, aujourd'hui, pas mal de gens se sentent dépossédés de leurs actions sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ils sont dans un environnement qui contrôle de moins en moins, qui est de plus en plus rigide et dans lequel, en fait, ce qui leur est montré, ce qui leur est recommandé, les actions possibles, en fait, ils ont de moins en moins d'influence dessus. Et pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'en fait, ça permet ensuite d'avoir des personnes qui sont beaucoup plus prévisibles. Si vous avez par exemple un républicain américain, bah, il sera beaucoup plus probablement climato-sceptique, il sera beaucoup plus probablement contre l'avortement. Bref, tout un tas de choses qui font que quand vous lui montrez un contenu, et bah, vous avez probablement beaucoup plus de possibilités de l'influencer que si c'était une personne au pif. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit volontaire de la part des plateformes, c'est juste un peu une externalité de dire plus les gens sont prévisibles, plus c'est facile de leur pousser du contenu et plus c'est facile de leur vendre de la pub. Aujourd'hui, il y a quand même un certain modèle économique de capitalisme numérique et je trouve que toutes les questions qu'on se pose, d'influence, de désinformation, même les questions de manipulation de l'information au sens large, en fait, c'est tout simplement des externalités de ce modèle économique, de ce capitalisme numérique. Et si demain, ben, une entreprise construit des voitures et que ça pollue en construisant des voitures, c'est une externalité négative et ça paraît évident à tout le monde qu'on pollue en construisant des objets. Et bien en fait, c'est la même chose dans le point de vue informationnel. Et bien en fait, ça va de soi qu'il y a des externalités négatives, notamment de la pollution informationnelle, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Absolument pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à la fois quantifier cette pollution informationnelle, essayer de la réduire, essayer de condamner les acteurs qui en produisent beaucoup, évidemment, mais est-ce qu'on arrivera à zéro pollution informationnelle? Ça, je ne crois pas du tout.
Dans ce passage, Victor explique comment le capitalisme social qu'offrent les plateformes a pu créer un capitalisme d'influence, et comment ce capitalisme est supporté par des personnes dont l'influence va toucher certaines communautés. Donc on a à la fois l'idée des plateformes qui offrent un capital social qui permet à certaines personnes, quand elles savent l'exploiter, de se créer un rôle d'influenceur, mais on a également l'idée que, comme les plateformes sont des outils assez rigides, si l'on observe une personne d'une communauté, on sait comment toute la communauté va réagir et on va pouvoir produire des contenus visant celle-ci. Soit parce qu'on l'a bien cerné, soit parce qu'on connaît l'influenceur ou les influenceurs qui touchent cette communauté et qu'on va pouvoir l'exploiter dans ce système pour faire passer de l'information manipulée. Face à ces différents éléments, on va aborder les changements en fait, qui interviennent sur les plateformes de réseaux sociaux notamment.
Mais même avant ça, on a tout simplement l'idée générale de les gens essaient de se replier au sens un peu plus large sur des réseaux sociaux, des cocons dans lesquels ils se sentent bien. C'est pour ça que de plus en plus, on a un usage de réseaux sociaux uniquement pour du divertissement. Ça a été acté depuis quand même quelques années, l'évolution des usages des plateformes. On ne poste plus du tout la même chose qu'avant, on ne poste plus autant qu'avant et notamment de moins en moins d'informations personnelles. Pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, les plateformes sont un endroit dans lequel on va s'exposer, on va performer une identité, et c'est volontaire. On ne va plus forcément raconter toute sa vie. Et le pendant de ça, c'est que, bah, en fait, on va essayer de se retrouver dans des communautés. On a de plus en plus de réseaux sociaux un peu niche. On a vu, il y a un réseau social pour le tricot, par exemple, pour les personnes qui sont fans de tricot. On va avoir des réseaux sociaux qui vont permettre de se spécialiser sur une thématique, y compris politique. Pour faire une transition, il y a quand même des risques là-dessus d'archipélisation. En fait, il y a des risques globalement que les gens soient de plus en plus en vase clos, qu'il y ait de moins en moins d'échanges, au moins sur ces thématiques-là. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Pour le coup, j'en sais rien, mais en fait, le risque pour moi, c'est si ça se transmet en fait, à d'autres outils. Par exemple, si ça se transmet au modèle de langue dont on a pu parler, la question des modèles de langue qui pourraient être, par exemple, spécifiques à chacun des domaines, s'ils sont entraînés chacun sur des réseaux sociaux différents, en fait, vont avoir des visions du monde qui sont totalement différentes. Et on le voit déjà si vous prenez des modèles de langue en chinois, par exemple, et bien que vous parlez de la place de Tiananmen, selon sur quoi il a été entraîné, évidemment, il n'aura pas du tout la même représentation. Et ça, pour le coup, c'est assez dangereux. Mais dans l'autre sens, ce qui peut être intéressant, c'est que les modèles de langue recréent un point d'entrée qui est unique sur l'information, c'est-à-dire qu'on a à nouveau une certaine forme de centralisation. Et ça, en parlant de l'archipélisation dont on a parlé, en fait, cette forme de centralisation de l'information, elle peut permettre de déradicaliser des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine forme de moyennisation, de mainstreamisation, si on peut le dire, de l'information.
Donc on a une espèce d'aller-retour entre un modèle de langue qui offre un accès moyen à l'information et une tendance globale d'archipélisation des réseaux sociaux. Et peut-être que la rencontre de ces deux mouvements peut permettre aux utilisateurs de ne pas passer du cocon à la chambre d'écho, c'est-à-dire un lieu où ils ne seraient plus confrontés qu'à un seul et même point de vue. Mais moi je voulais poser une question très importante à Victor. J'avais déjà ma petite idée, mais c'est quand même mieux de demander à un chercheur ce qu'il a lui-même observé dans les données qu'il a exploitées. Et ma question, c'était de savoir si une opération d'influence, une campagne de manipulation de l'information, ça peut vraiment faire changer d'avis. Comment on change d'avis ?
La question de l'influence, elle est très large et pour le coup, il y a pas mal de définitions. Ce qu'on peut prendre ici comme point de départ, c'est la question de l'évolution des opinions. Ou la question de l'évolution des perceptions, avant d'aller au passage à l'action. En fait, pour reprendre cette question-là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui fait que je suis influencé ? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je peux changer d'opinion ? En fait, le point de départ, c'est l'idée qu'on va faire évoluer nos perceptions et que les réseaux sociaux peuvent façonner nos perceptions. Mais pour que ça fasse changer, par exemple, mon opinion, il faut que la personne et la source à l'origine de cette évolution, en fait, soient dans mon réseau de confiance. C'est quoi le réseau de confiance ? Globalement, on peut le voir comme l'ensemble des gens qui sont capables de me faire changer d'avis. Si demain, tu me racontes que tu as vu quelque chose de totalement fou sur une nouvelle campagne, même si a priori, ça me semble difficile à croire, et bien en fait, vu que tu es dans ton domaine d'expertise, tu vas totalement rentrer dans mon réseau de confiance. Et en fait, je pense que tout le monde peut essayer de définir ce réseau de confiance. Qui serait capable demain de vous faire changer d'avis ? Qui serait capable de vous apporter une information suffisamment précise, spécifique ou autre, au point que vous seriez capable de remettre en cause vos propres croyances et vos propres opinions ? Et ça, pour le coup, c'est super important parce que on a un réseau de confiance hors ligne, on a un réseau de confiance en ligne, et le rôle des influenceurs, c'est d'arriver à rentrer dans votre réseau de confiance. Et c'est pour ça, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pour ça qu'un influenceur a un pouvoir qui est bien plus grand qu'une campagne de désinformation, une campagne de manipulation russe, c'est qu'en fait, cet influenceur, il a déjà fait le travail en amont, un travail de sape quasiment, d'avoir réussi à pénétrer vos défenses, d'avoir réussi à rentrer dans le cercle de confiance, dans votre réseau de confiance. Et ce cercle-là, qui offline est assez évident, en ligne, il est beaucoup plus dur à définir. Et donc, pour le coup, il va dépendre de tout un tas d'éléments, il va dépendre de vos opinions, évidemment, de vos opinions qui sont préexistantes, mais il va aussi dépendre de la structure du réseau. Et c'est là où, si vous êtes enfermé dans une communauté qui va notamment répéter certains narratifs en permanence, et bien cette répétition peut vous amener en fait à changer vos opinions, et petit à petit on voit que le réseau de confiance va matcher la communauté. Et justement, c'est ce travail-là que j'ai pu faire dans ma thèse, ou qu'on peut faire à l'Institut des systèmes complexes, sur la réflexion sur les structures sociales, parce qu'en fait, l'évolution des structures sociales, par exemple la polarisation, est au cœur de cette évolution du réseau de confiance. On a pu le voir, par exemple, avec le Covid. Le Covid, et notamment toute la question de la vaccination autour du Covid, ou des masques avant, en fait, a mis en lien des personnes qui discutaient pas trop ensemble et qui se connaissaient pas beaucoup. On avait des gens qui venaient plutôt de gauche alternative, des gens qui venaient plutôt de droite catholique traditionnelle, on va dire, et des gens qui venaient plutôt vraiment de droite alternative beaucoup plus dure, type Asselineau ou autre. Et ces gens-là, en fait, ont été mis en contact sur le sujet du Covid parce qu'ils avaient une même opposition commune. Mais en fait, une fois qu'on a créé ce réseau de confiance de personnes qui disent « Mais attendez, on partage totalement les mêmes valeurs, on est d'accord sur ce sujet-là », et bien en fait, ce réseau de confiance, il s'est étendu à d'autres sujets. Et du coup, cette communauté-là, elle s'est structurée et elle a perduré dans le temps au point de devenir une des communautés qui existent en ligne de manière assez stable aujourd'hui. En fait, on a regardé en direct la création d'un nouveau réseau de confiance. Et là, on parle d'un point qui était à l'origine plutôt médical, qui est devenu très rapidement totalement politique.
On comprend donc que entrer dans le réseau de confiance d'une personne, c'est avoir la possibilité de l'influencer. Mais comment arrive-t-on à pousser des gens à agir dans le monde réel?
Là, pour le coup, ce qui est super important à mon sens, c'est la répétition de l'information et le fait d'avoir l'impression de le voir de sources différentes. C'est-à-dire justement ce passage au monde réel, ce passage à l'échange entre interpersonnel, en fait, qui pour le coup est souvent au cœur de l'évolution d'opinion, il a lieu quand on a une répétition dans le temps. Ça, c'est en fait toutes les questions autour un peu de l'agenda setting, de dire qu'est-ce qui fait que je vois une information à un instant donné? Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, on m'a poussé tel contenu?
Bon, là, il faut que je fasse une pause parce que j'avoue que je connaissais pas le concept d'agenda setting et donc j'ai dû faire une petite recherche. Et l'agenda setting, c'est une théorie de la communication et des sciences politiques qui explore comment les médias influencent les priorités du public. Elle a été développée par Maxwell Macomb et Donald Shaw dans les années 70, et selon cette théorie, les médias ne déterminent pas directement ce que les gens doivent penser, mais plutôt à quoi ils doivent penser. L'agenda setting est souvent couplé avec d'autres concepts comme le framing, l'encadrement, qui concerne la manière de présenter un sujet, ou le priming, la préparation cognitive, qui influence la manière dont le public juge certains sujets.
Et il y a un peu plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau qui est de dire, bah, en fait, si j'arrive à pousser mes contenus dans la communauté ou dans le paysage médiatique à un instant donné, même si les gens sont pour ou sont contre, bah, en fait, j'ai déjà un peu gagné. Le niveau d'après, c'est plutôt d'arriver à faire comprendre que ce serait bien d'en parler de telle manière, c'est-à-dire d'avoir un certain vocabulaire. Est-ce qu'on parle de changement climatique ou est-ce qu'on parle de dérèglement climatique? Et bien ça, on parle déjà de mon sujet, mais en plus, on en parle d'une certaine manière. J'ai réussi à faire une certaine forme de framing, c'est-à-dire de cadrage de mon sujet. Mais surtout, ce qui est assez important dans les communautés, c'est d'arriver à créer du lien dans la tête des gens entre les différents sujets. Si demain je vous parle, d'immigration, et ben plein de gens vont faire le lien avec la sécurité. Ce lien immigration-sécurité, il a été créé. Et pour le coup, si on arrive à créer comme ça en permanence des liens, ben ça nous permet au fur et à mesure d'avoir une évolution des sujets dans le temps, et notamment en fait, d'être capable de faire changer d'avis les gens beaucoup plus facilement. Alors c'est là où c'est très compliqué parce qu'on a souvent l'impression qu'on a des acteurs extérieurs qui seraient en train de piloter tous ces changements. Non, en fait, en réalité, il y a énormément de choses qui sont organiques. Ce qu'on peut faire, c'est on peut essayer, quand il y a des acteurs qui peuvent être parfois malveillants, d'insuffler ce changement-là, de produire des contenus. On a vu typiquement avec tout ce qui a fuité, tous les mèmes qui ont été produits dans le cadre des différentes campagnes de manipulation russe. On peut essayer de produire du contenu, on peut essayer de produire des narratifs, on peut essayer de donner des idées, mais c'est qu'à partir du moment où la communauté s'en empare, qu'on a un vrai impact. C'est justement ça dont tu parlais quand tu parlais de passage au réel. En fait, c'est-à-dire quand la communauté s'en empare et qu'on passe à l'action, comme on a pu le voir parfois, et bien c'est ça ce qui lui donne corps.
Finalement, nous avons abordé la manière dont les campagnes de manipulation de l'information diffusaient massivement du contenu en capitalisant sur ce qui avait fonctionné. Ce qui pouvait expliquer que de nombreuses campagnes pouvaient rater et ne pas trouver leur public. Et puis on a abordé les boucles de rétroaction et la mort d'Internet, quand les robots finiront par produire des contenus pour d'autres robots, ce qui n'est pas toujours une fiction de Benjamin Habitant.
Pendant ce temps, Elon Musk...
Salut les amis.
Continuez de régler tous les problèmes dans l'ordre avec des solutions bizarres, dérangeantes et efficaces.
Et comme il était difficile de faire mieux que l'étoile noire en termes de solutions bizarres et dérangeantes...
Il se détourna du ciel pour s'intéresser à ce qui avait toujours été son domaine d'excellence.
La fiction.
Nos algorithmes analysent en permanence les attentes du public et produisent automatiquement la meilleure fiction possible pour ce public. Ils ont, par exemple, écrit ce communiqué de presse. Big data, big data, machine learning, analyse prédictive, réseau de neurones, big data, argent, dollars, football, David Beckham.
Les algorithmes écrivaient les films, ils écrivaient les séries, ils écrivaient les livres, ils écrivaient les jeux vidéo.
Ils racontaient des histoires à vos enfants pour les endormir.
Il était une fois Batman dans l'équipe de France de football.
C'est assez désespérant. C'est pour ça qu'après, il y a pas mal de solutions qui peuvent exister. Mais par exemple, imaginez ce que propose David Chavalarias, des réseaux dans lesquels on pourrait valider le fait qu'on connaisse la personne en face de nous. Ça, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus puissant parce qu'on remettrait l'humain au corps du système avec une idée très simple, hein, de dire « Moi, je suis capable de te parrainer, de te valider le fait que, bah, par exemple, je connaisse effectivement et physiquement Anaïs Meunier. » Et bien ça, cette idée-là, ça permettrait d'avoir de proche en proche un réseau dans lequel on se fait confiance et qui serait beaucoup plus difficile à attaquer d'un point de vue informationnel. Aujourd'hui, on est encore dans la situation où, a priori, quand on lit quelque chose en ligne, on pense que c'est écrit par une personne, en tout cas une vraie personne, on va dire. Peut-être que dans 5 ans, ça ira plus du tout de soi, et sera même probablement le cas. Et donc dans ces cas-là, on aura une évolution des usages qui va consister à, par défaut, penser que c'est un contenu qui est généré, sauf pension contraire, et dans ce cas-là, on dira ce contenu a été généré par un humain, ou on se mettra sur des réseaux dans lesquels on sait que les autres contenus seront effectivement écrits par des humains.
Pour conclure sur tous ces sujets réjouissants, ce que l'on a essayé de montrer avec Victor, c'est qu'un capitalisme de la confiance est en train de se mettre en place, un peu comme une évolution du capitalisme de l'influence. Ce capitalisme de la confiance crée des communautés plus fortes, car elles se connaissent mieux, et vivent ou vivront sur des réseaux où elles se sentiront plus en sécurité. Mais si une personne malveillante arrive à pénétrer dans cette communauté en se faisant passer pour un membre et à diffuser des contenus manipulés, alors celle-ci sera beaucoup plus perméable à cette attaque informationnelle, car elle l'aura pris pour un membre de confiance et donc sera plus à même d'être influencée. Encore merci à Victor Chomel pour cet entretien et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Signal sur Bruit en partenariat avec le Cercle Pégase de Soprasteria. Signal sur Bruit, un podcast produit et réalisé par Anaïs Meunier.